Souvent, quand on prend le temps de discuter avec des artistes et qu'on dépasse la discussion peut-être sur leur œuvre, leur production, donc d'échanger avec eux autour de l'œuvre qu'ils ont inventée, créée, qu'ils défendent, la question du rapport à Paris, à la capitale, et donc aussi implicitement au pouvoir, réinterroge pour moi la question de la production d'une œuvre d'art au sens plein du terme, c'est-à-dire la production en amont, comment va naître la création d'une œuvre d'art, pourquoi on est artiste, qu'est-ce qu'on a à dire, et est-ce que le rapport à un territoire particulier dans lequel on s'installe a un sens ou pas? Et d'autre part, au niveau de la production, plus dans un temps deux, on va dire, une fois que l'œuvre est créée, comment est-ce qu'on la diffuse, comment est-ce qu'on la produit? Donc des questions presque de production au sens technique du terme, où trouver l'argent, comment faire qu'un projet qu'on a dans la tête devienne réel. Et souvent, en discutant avec ces artistes, on se heurte aux réalités concrète effectivement de la production marchande d'une œuvre d'art. Donc cette question-là du rapport à Paris me semblait vraiment voilà interroger de façon très transversale des questions qui me semblent être au cœur des problématiques que peut se poser un artiste.
Artiste loin de Paris, vous rencontrez donc une série d'artistes pour ce livre avec lesquels vous avez eu des entretiens. Ce sont des artistes pratiquement tous qui vivent et qui travaillent à Marseille. Vous n'êtes pas allé dans d'autres régions?
Ça a été pour donner aussi une cohérence géographique. On aurait pu effectivement, et on l'avait envisagé, élargir le champ à la France tout entière. On a pensé que c'était pertinent aussi de prendre une échelle plus réduite et que ça pouvait donner une cohérence dans une démarche qui est très éclectique parce que quand on parle d'artistes, on a voulu aller dans des champs très différents avec des vécus et des objets très différents, les musiciens, les plasticiens, les metteurs en scène, dessinateurs de BD, enfin on est parti très large. Donc le fait de rester sur un champ géographique plus réduit, qui est celui qui a sa cohérence, hein, qui est celui du Grand Marseille, voire même finalement ça correspond au territoire de Marseille-Provence 2013, on va de Arles à Aix jusqu'à Toulon, en gros c'est ça. Et notre sentiment aussi, c'est que dans le local, dans le particulier, dans ces parcours intimes d'artistes très singuliers, on parle du général. Et sans avoir fait une étude scientifique, on a le sentiment, loin de là, on a le sentiment que ce qui se passe sur ce territoire, avec ses particularités, on va le retrouver sûrement dans d'autres régions de France.
Pourtant, il y a une histoire particulière entre Marseille et Paris. Il y a même un folklore là-dessus. Et on se dit que les artistes qui s'inscrivent dans ce rapport-là, Marseille-Paris, qui vivent et qui travaillent à Marseille, ils ont quand même des caractéristiques peut-être pas.
Oui, il y a des spécificités. On met le doigt là-dessus. Mais déjà, dans les gens dont on parle, il y a des cas de figure différents. Il y a des Marseillais historiques, effectivement, et confrontés, qui étaient à Marseille, à l'époque où Marseille était une grande friche culturelle. Elle est sûrement encore pour une part, mais où elle était vraiment un désert culturel. Donc des Marseillais de Marseille. On a des gens donc, qui sont hors de la ville elle-même, et on sait que dès qu'on franchit peu de kilomètres à Aix, par exemple, on est déjà dans un univers complètement différent. Donc déjà, on sort de Marseille. Et puis, il y a l'autre cas de figure, c'est-à-dire ceux de Parisiens qui, pour différentes raisons qu'on raconte, décident de venir, de s'exiler de la capitale. Donc, c'est pas un match, on le dit, on rejoue pas le match OM-PSG qui est un peu artificiel, même s'il renvoie à des réalités qu'on ne nie pas, quoi.
Parmi les artistes que vous interrogez, il y a d'ailleurs beaucoup de gens d'origine parisienne, je ne sais pas si on peut dire comme ça, qui vivent et travaillent ici à Marseille.
Et ça, c'est assez drôle parce que parfois, on l'a découvert nous-mêmes en allant à la rencontre d'artistes qu'on avait choisis un peu par hasard, un peu pour des raisons particulières, pour avoir effectivement un éclectisme un peu de genre artistique. Mais par exemple, si on pense à Tatou, des Massilia Sound System, Moussuté, qui est à La Ciotat, qui pour nous était une figure vraiment liée à notre patrimoine, on va dire, marseillais, on a découvert qu'il avait en fait grandi dans la région parisienne. Donc finalement, les cartes sont assez brouillées, assez complexes. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que aucun des artistes que nous avons rencontrés, même ceux qui ont un rapport, un attachement à la région très très fort, ne nous ont répondu d'une façon régionaliste, entre guillemets, et vraiment se poser la question du rapport à Paris comme un rapport au centralisme et au pouvoir, plus qu'à un symbole de Paris, justement dans cette opposition Paris-Marseille, dans une dualité. Et se poser vraiment la question du coup de leur rapport au pouvoir à Paris, mais aussi sur un territoire régional et local. Parce qu'on se rend compte en discutant avec eux que le rapport au pouvoir, c'est pas seulement à la capitale, mais qu'il peut y avoir des petites capitales aussi en région. Donc au fur et à mesure que nous avancions dans ces rencontres, dans ces temps qu'on voulait assez conséquents avec eux pour vraiment discuter de la question au-delà des clichés et d'aller un peu plus loin avec eux, de façon plus, comme le disait Michel, plus intime, plus personnelle, au fur et à mesure, les réponses à nos questions se complexifiaient au lieu de se simplifier.
Et on voulait aller vers des gens qui ont eu un parcours de façon à essayer d'examiner dans la durée ce qu'avait été leur rapport hier et aujourd'hui pour essayer de photographier une évolution éventuelle dans cette question de l'éloignement vis-à-vis de Paris.
Est-ce qu'elle existe, cette évolution ?
Elle existe et c'est pas simple. C'est-à-dire qu'il y a des paradoxes. D'une certaine façon, pour une part, les choses ont changé. Il y a des chiffres. 80% du spectacle vivant qui est financé par les collectivités locales, par exemple. Et ça dénote une réalité. Donc ça veut bien dire qu'il y a des moyens et des acteurs en région et qui sont même là, beaucoup là et surtout là. Et par ailleurs, il y a des choses qui bougent peu, en particulier, à mon avis, concernant le problème de la reconnaissance du travail fait. Et en particulier, le point essentiel qui fait qu'un artiste va être considéré comme un artiste universel, comme un artiste d'importance, et pas comme un artiste local. Et là, dans ce processus, y compris pour des gens qui ont choisi, qui ont voulu, qui sont contents de l'avoir fait, qui ont pu rester tout le temps loin de Paris, on voit très bien que de toute façon, à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui se passe, un bras de fer, ou alors un coup de pouce venant de Paris. Alors que ça passe par le poids des médias parisiens et de certaines institutions culturelles. Mais ça, c'est très, très, très présent encore aujourd'hui.
Michel parlait des fonds publics alloués à la culture qui sont maintenant beaucoup distribués par les collectivités territoriales. Au point même, on apprend en parcourant votre livre que pour certains artistes qui travaillaient, vivaient à Paris, on leur a dit clairement, écoutez, allez plutôt en région, ça se passera mieux pour vous.
Oui, ça c'est une réalité. Hein, quand on discute en off, souvent avec certaines personnes, c'est une réalité. Et en même temps, on a aussi le contre-exemple d'une Catherine Marnas avec la compagnie Parnasse, qui elle a décidé de s'installer en région et qui galère quand même pour. Alors, c'est pas qu'elle n'ait pas de financement, elle est reconnue, elle est financée, mais par rapport à l'ampleur du projet et aux ambitions du projet qu'elle voudrait mettre en œuvre, elle n'arrive pas en région à trouver de financement suffisant pour lui permettre d'avoir des comédiens permanents, une structure, une troupe qui font partie de son projet de compagnie. Donc, en fait, on a un peu l'impression que c'est le jeu de la patate chaude et qu'un peu on se renvoie la balle, peut-être encore plus aujourd'hui dans un contexte de crise, où l'État dit aller en région, ce sera plus facile, et en région, on va répondre non, mais nous, on n'a plus de sous, donc on baisse le nombre de compagnies, on donne peu d'accréditation, on a peu de moyens, et au final, on se retrouve quand même aujourd'hui dans une situation assez critique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'appels. Les artistes essayent de se fédérer plus ou moins, avec plus ou moins de grâce. Et ils y arrivent plus ou moins bien. Mais on est à un moment, je pense, assez critique. Où il faut aussi, je pense que les artistes se reposent la question de leur rapport au travail, entre guillemets, à leur création d'œuvre. Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Quels moyens trouver pour créer? Comment est-ce qu'aujourd'hui un artiste peut vivre de sa création? On a d'un côté une baisse des subventions, des jeux de cartes qui sont en train de bouger entre les collectivités territoriales, leurs compétences, les budgets qu'ils vont pouvoir avoir en termes de culture. Il y a de nombreuses interrogations. Au niveau de l'État, de la même façon, on peut que s'interroger aujourd'hui sur la place de la culture. Donc il va falloir aussi que sûrement il y ait... que les artistes soient aussi force de proposition pour arriver à pouvoir exercer leur métier, leur art, sans se retrouver paupérisés à l'extrême, comme il est en train de se passer aujourd'hui.
On parlait de Catherine Marnas, donc du spectacle vivant. Est-ce que dans cette relation des artistes loin de la capitale, les choses sont différentes selon la discipline artistique dans laquelle on inscrit sa pratique ou pas?
Oui, alors on peut prendre l'exemple par exemple de Lisa Mandel, qui est dessinatrice, qui fait à la fois ses scénarios et les dessins, et qui a une belle reconnaissance, hein, avec des séries comme Nini Patalo pour les enfants, ou des choses plus pointues, plus adultes, comme... Une très belle BD qu'elle vient de sortir sur l'asile psychiatrique aux éditions L'Association, qui sont les éditions qui ont édité Marjane Satrapi. Donc là, on est dans, il y a une forme de reconnaissance. Et elle est marseillaise, elle a suivi les études de Beaux-Arts à Strasbourg. Donc elle tourne autour de Paris. Et à un moment donné, elle n'a jamais été à Paris. Elle a essayé, elle y est passée. Et elle y est repartie en courant parce qu'elle s'est retrouvée adoubée, fêtée, mais dans un milieu, dans des logiques qui l'ont fait fuir. Elle avait l'impression de tourner en rond, d'être dans un jeu de cours. Et puis après, il y avait des raisons très personnelles aussi. Elle étouffait dans cette ville-là. Bon, et pourtant, elle n'est pas, c'est pas une Marseillaise classique. Elle voyage, elle va passer de longs moments en Argentine ou autre. Mais ce qu'elle dit et ce qu'elle vit, elle, évidemment, elle a de la réussite, c'est que dans la BD, on peut tout à fait faire carrière, et techniquement, avec Internet, en envoyant ses planches à l'éditeur qui est à Paris, hein. Attention, on peut vraiment se passer de la présence physique à Paris. Par contre, ce dont elle ne s'est pas passée, c'est d'une rencontre avec des gens comme Sfar, donc pas n'importe qui, c'est-à-dire le dessinateur qui, à Paris, en ce moment, est très reconnu et très fêté par les médias parisiens et les diffuseurs. Donc il y a ce jeu très complexe, quoi.
Dans le livre, vous rencontrez aussi Pierre Fava, qui est artiste. Lui aussi a réussi à se passer de la capitale.
Alors Pierre Fava, c'est une histoire romanesque, parce qu'en fait, il a une enfance malheureuse. C'est un enfant battu. Enfin, il en parle facilement, donc on le fait avec lui. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas issu d'un milieu ni intellectuel ni artistique. Il est de Toulon, il est pompier à Toulon, et il devient peintre autodidacte, comme ça, sans formation, sans connaissance de l'histoire de l'art, et sans jamais passer par Paris, par une série de rencontres heureuses, et aussi au culot en étant repéré sur un concours international qui fait qu'il va se retrouver exposé à New York. Il intègre le marché de l'art, il est fêté, il fait des tableaux en noir. Et il est très fier, et il est très fier de ça, il a raison, et il développe tout un discours. Et alors lui, c'est un des plus jeunes qu'on a vu, donc son histoire est encore à construire. Et il développe tout un discours sur « je n'irai pas à Paris par la petite porte, et si j'y vais, ça sera pour être exposé à Beaubourg ou dans des endroits comme ça ». Voilà, maintenant, c'est un marché très, très particulier, il y a un côté... c'est une belle histoire... qui montre que des choses sont possibles, mais elles restent rares, hein, en la matière.
Et puis surtout, on est dans le milieu de l'art contemporain, donc les mécanismes sont un peu différents. On a l'impression que dans l'art contemporain, il est possible, même si ça reste très rare, de sauter la case Paris, d'aller directement à l'international, et qu'on peut revenir à Paris via l'international. Je pense que dans le spectacle vivant, c'est beaucoup plus hiérarchisé, beaucoup plus complexe de faire ce chemin-là. En BD, c'est vrai que, comme on l'avait dit, il y a le Internet. Enfin, Lisa Mandel nous disait que ça avait vraiment tout changé pour elle. Et d'ailleurs, elle nous disait qu'il y avait beaucoup de dessinateurs qui n'étaient plus à Paris, qui avaient fui Paris et qui n'étaient plus du tout là-bas. Il n'empêche que, pour la petite histoire, Lisa Mandel, quand elle était à Paris, avait été interviewée par le journal Des Inrecuptibles. Avait eu un beau portrait. Et quand un an plus tard, le journaliste la rappelle pour refaire un portrait et qu'elle dit pas de problème, mais là je suis à Marseille, ben, il lui a dit bon ben tant pis. Donc il y a quand même des choses qui restent, même si elle est reconnue, c'est pas anodin d'être à Paris ou ailleurs. Ensuite, peut-être dans le domaine de la musique, c'est encore il y a encore autre chose qui se joue, parce qu'on est sur une économie de marché, mais en même temps, il y a, en tous les cas, la musique qui n'est pas spectacle vivant, on va dire, l'industrie du disque. Et du coup, c'est vrai que les deux personnes, notamment Tatou, dont on parlait au départ, et puis également Sam Carpienia, du groupe Dupin, les deux se posent la même question de comment produire des disques quand on ne veut pas passer par les gros labels, justement, parisiens. Donc là, il va y avoir une réflexion, la question du rapport à Paris va poser une réflexion politique sur comment est-ce qu'on peut produire de la musique sans passer par la case Paris, forcément. Et du coup, ça réinterroge aussi le rapport entre l'œuvre musicale et son public. Est-ce qu'on passe par des concerts? Est-ce qu'on passe par de l'autoproduction? Donc du coup, est-ce qu'on met en place des circuits courts de production directement, un peu comme les AMAP, du producteur presque au consommateur en musique? En tous les cas, on sent qu'il y a une réflexion qui est vraiment présente au niveau des musiciens.
Pour terminer, quels sont les autres enseignements que vous retirez, vous, de l'écriture de ce livre et de toutes ces rencontres avec ces artistes ?
Ça pose aussi des questions de politique culturelle, la question des avantages et des inconvénients de la proximité. Avantage, par exemple, c'est la proximité avec des financeurs potentiels, les collectivités territoriales. Inconvénient, et on le voit dans la façon dont se met en place un peu laborieusement le projet Marseille-Provence 2013, ces artistes qui ont choisi d'être loin de Paris, ils se retrouvent aussi au milieu de logiques clientélistes, au milieu de systèmes où c'est parfois difficile de faire entendre sa singularité artistique.
Moi, ce que j'ai découvert en faisant le livre et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi d'aborder une question qui va être un peu politique, théorique, de l'aborder avec des artistes qui ont plutôt l'habitude qu'on vienne les rencontrer pour les faire parler de leur création. Leur poser cette question-là, ça permettait vraiment d'entendre des histoires et des parcours qu'on découvrait au fur et à mesure, très singuliers. Et ça donne presque envie de les re-rencontrer, de les faire se rencontrer, de les mettre en présence vraiment pour... je pense qu'on touche à quelque chose de la nature, vraiment de la création d'une œuvre d'art. Mais je ne sais pas très bien à quel endroit, mais j'ai ce sentiment, et en tous les cas, ça a été très agréable de rencontrer ces 15 artistes pour faire, pour donner à entendre aux lecteurs des parcours de vie, parce qu'on le dit, on l'a pas trop dit, mais c'est vrai qu'aussi, souvent, ils nous ont rendu compte de choses assez intimes, vraiment, pourquoi à un moment on choisit d'être à Paris, de pas être à Paris, pourquoi on en part, pourquoi est-ce qu'on continue à créer, ça m'a assez émue, en fait, de les entendre s'exprimer sur leur création de cette façon-là.